Radio Capi, l'information oblige. Choisir Radio Capi, c'est s'informer à temps réel. Nous sommes à Kinshasa, il est exactement 18h et 19h, vous êtes à Lubumbashi, capitale minière du Haut-Katanga.
Radio Capi.
À la présentation du journal Lievin Mwinga.
Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal à la une de l'actualité. Médiation dans le conflit RDC-Rwanda, l'Angola jette l'éponge. Cette nouvelle est tombée ce lundi. La présidence angolaise affirme donc quitter la médiation après des mois d'efforts et de négociations. Il est temps pour elle de se consacrer aux priorités de l'Union africaine, a-t-elle déclaré. C'est parti depuis ce lundi avec les consultations politiques annoncées samedi par la présidence de la République. Objectif, former un gouvernement d'union nationale dans les jours à venir. Le meneur de ces consultations, Kachmir Eberhan Kolongele, s'est entretenu avec la première ministre Judith Suminwa. Et puis l'échéance fiscale pour la souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations est fixée au 31 mars prochain. Nous allons décortiquer et comprendre tous ces mots avec le chargé d'études à la division communication et documentation de la Direction générale des impôts, M. Pierre Kabeya, et notre invité. Je le disais tantôt, médiation dans le conflit RDC-Rwanda, l'Angola se retire. Cette nouvelle est tombée ce lundi. Le pays de João Lourenço annonce donc la fin de son rôle de médiateur dans ce conflit. La présidence angolaise affirme qu'après des mois d'efforts et de négociations, il est temps de se consacrer aux priorités de l'Union africaine présidée par João Lourenço, tout en passant le relais à un autre médiateur. Les détails dans ce reportage de Martial Papimukeba, rendu par Élisée Chikota.
Dans ses communiqués, l'Angola souligne que les discussions menées sous l'égide du président João Lourenço ont permis certaines avancées, notamment l'engagement de la RDC à neutraliser les éléments de FDLR et celui du Rwanda à retirer ses troupes du territoire congolais. Ces engagements devaient aboutir à un sommet à Luanda le 15 décembre dernier, mais l'absence du Rwanda à cette rencontre a compromis la suite du processus. L'Angola affirme avoir toujours estimé que des négociations directes entre le gouvernement congolais et le M23 était essentiel en parallèle à ces processus. Après avoir obtenu l'accord des parties, une première rencontre devait se tenir à Luanda le 18 mars dernier, mais elle a été annulée à la dernière minute en raison des facteurs externes jugés étrangers aux initiatives africaines en cours, précise le communiqué. L'Angola annonce qu'avec la Commission de l'Union africaine, un autre chef d'État sera désigné pour poursuivre la médiation avec le soutien des pays de la SADC, de l'EAC et des facilitateurs mandatés. Il rappelle également que toutes les initiatives des Nations Unies, des organisations internationales et des pays engagés pour la paix en Afrique sont le bienvenu à condition qu'elles soient concertées avec les médiateurs, les conseils de paix et de sécurité et le président de la Commission de l'Union africaine.
Mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain en ce qui concerne le conflit proprement dit? La situation est restée tendue et volatile toute la journée de ce lundi au chef-lieu du territoire de Walikale au nord Kivu. Pendant ce temps, rapportent plusieurs sources, de violents combats ont opposé dans la matinée les rebelles du M23 aux combattants Wazalendo dans les villages Shabunda et Mutakato. C'est à environ 27 km à l'est du chef-lieu du territoire sur l'axe Masisi. Ces sources déplorent en plus qu'en dépit de son annonce de repositionnement de Walikale Centre samedi dernier, le mouvement rebelle M23 AFC est toujours sur place. Pour certains acteurs de la société civile, la rébellion a fait atterrir ce lundi encore deux rotations d'avions à l'aérodrome de Kigoma, Walikale, transportant ses renforts militaires et logistiques. Rien ne va pas non plus du côté de Beni. La situation sécuritaire à Mavivi dans ce territoire du Nord Kivu reste préoccupante depuis le début de l'année. Cette localité située à une dizaine de kilomètres au nord de Beni ainsi que les villages environnants sont victimes d'attaques attribuées aux rebelles ADF avec un bilan de plusieurs morts et disparus. Des militaires des FARDC non affectés dans la zone sont également présents en tenue civile et armés semant la terreur. Face à cette situation confuse, Gervais Mako Kofi Bukuka, notable de Mavivi, appelle les autorités militaires à intervenir pour permettre à la population de vivre en sécurité. Il est au téléphone de Guylaine Kassassia.
La peur continue de gagner la population qui ne sait plus se rendre dans ses champs à cause de l'insécurité qui prévaut dans la zone depuis le début de l'année. La population n'a que ses yeux pour pleurer. Plusieurs personnes ont été tuées, d'autres portées disparues et de nombreux biens pillés ou soit incendiés. Voilà pourquoi je lance cet appel au commandant des opérations Sokola 1 ainsi qu'à ses partenaires de l'UPDF et de la MONUSCO pour qu'ils trouvent un moyen de restaurer la paix dans la zone. Un autre facteur d'insécurité à Mavivi est la présence des militaires des FARDC, alors que leurs unités ne sont pas censées être dans cette zone. Ils sèment la terreur parmi la population. Récemment, en tentant de cambrioler la maison d'un habitant, ils ont tiré des coups de feu, provoquant panique et un déplacement de la population, qui a cru à une incursion des rebelles. Voilà pourquoi nous demandons aux autorités d'affecter ces militaires dans le leurs unités respectives et de laisser la population libre.
En réaction, le colonel Mac Azoukai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord des FARDC, indique que l'armée surveille de près l'identification des militaires présents dans la zone, mais rattachés à d'autres unités. À Bounia, cette fois, plusieurs stations-service n'ont pas ouvert ce lundi matin, conséquence des combats entre Codeco et UPDF. Les quelques rares qui sont opérationnels sont envahis par des clients. Certains opérateurs n'ont pas de stock suffisant. Ceux qui en ont spéculent sur le prix à la pompe qui a sensiblement augmenté. Le président des importateurs des produits pétroliers en Ituri attribue cette situation à l'arrêt du trafic sur la route nationale numéro 27 à la suite des combats ces derniers jours entre la Codeco et l'armée ougandaise dans la région de Fataki. Conséquence immédiate de cette situation, une course à moto de 1000 francs par exemple est passée à 1500 francs congolais, voire 2000. Martial Kiza Biamungu pour les détails.
Des véhicules de transport en commun, des particuliers, des structures étatiques et privées ainsi que des taxis-motos envahissent depuis ce lundi matin les quelques stations-service opérationnelles dans la ville de Bounia, ce qui donne lieu à la spéculation du prix du carburant à la pompe. Dans certaines stations-service, les prix d'un litre d'essence se vend à 4000 francs contre 5000 voire 6000 francs congolais dans d'autres stations. Les clients disent ne pas comprendre cette situation et demandent l'intervention rapide des autorités. Cette histoire du carburant, on ne comprend pas. On achetait un litre à 3500 francs hier, mais aujourd'hui, ça devient 4500. On ne sait pas si c'est la guerre ou c'est quoi. Que les autorités nous viennent en aide. On risque de garder nos motos et nos translix. Pour Danny Mugisa, le président des pétroliers de l'Ituri, cette situation est consécutive à la recrudescence de l'insécurité sur la route nationale numéro 27, ce qui ne permet pas, selon lui, à des centaines de camions citernes bloqués à Mahagi d'emprunter cette route. Il sollicite auprès des autorités provinciales une escorte militaire pour permettre aux camions ravitailleurs d'atteindre Bounia. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et ce lundi matin, le président des importateurs pétroliers de l'Ituri, qui s'est entretenu avec le gouverneur de province, annonce que la situation sera décomptée dans les prochaines 48 heures. Daniel Mugisa déclare que l'autorité provinciale a promis d'organiser des escortes militaires pour sécuriser le transport de carburant de Mahagi à Bounia. Il appelle donc la population au calme et les gérants des stations-service à mettre fin à la spéculation des prix de carburant à la pompe. Consultation pour la formation du gouvernement d'Union nationale, c'est parti depuis ce lundi matin. Eberhard Kolongele, conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, s'entretient donc depuis ce matin avec les leaders des différentes forces politiques du pays. C'est dans le cadre des consultations politiques voulues par le président de la République en vue de la formation prochaine d'un gouvernement dit d'Union nationale. Première personnalité à rencontrer, Judith Souminois, à être rencontrée était Judith Souminois, première ministre. Les consultations se poursuivent en tout cas jusqu'à présent avec les autres chefs de file des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation. Billy Van Lutumba.
Cachemire Eberhan Kolongele, conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, explique aujourd'hui qu'il s'agit d'une mobilisation nationale. Ainsi, lorsque la patrie est en danger, le chef de l'État a le devoir de mobiliser toutes les forces pour barrer la route à l'ennemi. C'est après son échange avec la Première ministre à son bureau. Rien ne cessait de cette rencontre. UDPS, comme première force politique, d'après son président intérimaire, Augustin Kabuya, rencontre le conseiller spécial, cette fois-ci dans son bureau temporaire retenu pour ses consultations dans la commune de la Gombe.
Nous n'avons pas posé des conditions comme telle. Comme vous le savez, l'Union pour la démocratie et le progrès social, c'est le parti du chef de l'État. Et je me réserve de certains commentaires. J'ai échangé avec le conseiller spécial. C'est quand il va faire son rapport, à ce moment-là, je vais vous inviter à lui mettre.
Samalou Kondé, président du Sénat, à l'issue de son échange avec Eberhan, invite les autres forces à s'impliquer.
Nous sommes venus d'abord réaffirmer ce principe d'unité de cohésion nationale. Mais au-delà de ça, nous avons encouragé les échanges débutés ici par le conseiller spécial. Et nous invitons bien sûr toutes les autres forces telles qu'édictées dans les formats dans lesquels il faudrait les recevoir.
Président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, explique pour sa part que face aux défis actuels du pays, il est tout à fait logique que des telles consultations se mènent pour identifier des acteurs à même d'y faire face. Dans la suite de ces échanges, mentionnons également la rencontre aujourd'hui avec Christophe Mbosso, André Mbata, secrétaire permanent de l'Union Sacrée.
Autre actualité, des voyageurs dans la tourmente au Kasaï oriental, plusieurs d'entre eux en partance pour Ndomba par pirogue et ceux en partance pour Lusambo sont bloqués sur la rivière Loubi dans le territoire de Kabeyakamwanga. Cela après le naufrage sur la rivière Loubi il y a 2 semaines du bateau MV Wandeka qui transportait à son bord une cargaison composée de sacs de ciment et de riz. Cette embarcation a fait naufrage dans un endroit où la rivière est rétrécie, empêchant le passage à d'autres embarcations. Explication avec Esther Ndalafina.
Plusieurs piroguiers en provenance de Lusambo en partance pour Ndomba dans le territoire de Kabeyakamwanga sont bloqués sur la rivière Loubi depuis près de 2 semaines. D'autres passagers en provenance de Ndomba en partance pour Lusambo subissent le même sort. Quelques passagers affirment être bloqués sur la rivière Loubi par le bateau MV Wandeka qui a fait naufrage depuis bientôt 2 semaines. Cette embarcation provenait de Kinshasa avec à son bord plusieurs marchandises dont notamment les sacs de ciment, des sucres et d'autres produits manufacturés. Elle a fait naufrage dans un endroit où la rivière est rétrécie et ne peut permettre ni le passage des pirogues, moins encore des autres embarcations. Ces passagers ne savent à quel sens se vouer. La nourriture devient de plus en plus rare. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Plus de 21 000 abonnés sans eau potable depuis quelques mois à Bounia. Ils sont abonnés au réseau privé de distribution d'eau, centre d'initiation au développement rural en Ituri. En cause, la destruction des circuits de distribution par la société Mont Gabaon qui exécute les travaux de modernisation de la voirie de la ville. Innocent Gandru, le coordonnateur de Sidri, l'a déploré le week-end dernier à Bounia dans un point de presse à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau célébrée le 22 mars de chaque année. On l'écoute dans ses propos recueillis par Sadiki Aboubakar.
L'entreprise Mont Gabaon a rasé pratiquement toutes les canalisations pour qu'ils raccordent ces kiosques. Et ces kiosques sont restés comme des éléphants blancs. Les problèmes que nous déplorons, nous aussi nous intervenons pour réaliser des choses publiques. Et si jamais il y a un intervenant qui arrive ici avec un projet, qu'on mette ensemble tous les intervenants, les différentes divisions, infrastructures, énergie, etc., qu'on puisse demander quel est le plan de situation à ce qui concerne l'eau, quel est le plan de situation à ce qui concerne l'électricité. Comme ça, on peut éviter de commettre des dégâts ou des destructions que nous considérons comme volontaires. Je pense que nous avons approché Mont Gabaon plusieurs fois, il n'a pas voulu collaborer. Alors, vous voyez que maintenant, le seul recours qui nous reste, c'est aller en justice.
Je vous informe que tous nos efforts pour avoir la réaction de Gabaon sont restés vains. Donc, nous aussi, nous avons essayé. Tanganyika, avec ce cri de détresse de l'administrateur du territoire de Kongolo, il dénonce les mauvaises conditions de vie des déplacés vivant dans des sites. Se confiant à la presse ce week-end, il a fait savoir que la plupart de ces déplacés ont fui des affrontements entre groupes armés dans le territoire de Kabambare, province du Maniema. Le point avec Paulin Mounanga.
L'administrateur du territoire des Congolos annonce que les déplacés passent des moments difficiles dans les camps, qui sont notamment Kaseya, Kabianga et Tchofa. Il indique que certains déplacés qui ont fait longtemps dans les camps ont bénéficié des portions de terre et cultivent. Jean-Pierre Ngongo Mbokamiba souligne que des agences humanitaires comme l'OIM et les PAM appuient les déplacés avec le cash. Et l'OIM avait même installé des abris sur les sites pour les déplacés. L'autorité du territoire précise que deux sites se sont ajoutés sur les trois qui existaient et actuellement, Congolo compte cinq sites de déplacés. Rappelons qu'il y a quelques mois, les représentants des déplacés sont allés à la rencontre de l'administrateur du territoire pour lui faire part de leurs difficultés. Il manquait les moyens de survie et certains étaient obligés de faire des petits travaux chez des particuliers pour s'en sortir.
Actualité internationale.
Deux journalistes enlevés au Burkina Faso, il s'agit de Nguezuma Sanogo et Bukari Wouba, enlevés dans la matinée de ce lundi 24 mars à Ouagadougou, respectivement président et vice-président de l'Association des journalistes du Burkina Faso. Tous les deux ont été interpellés sans mandat par des hommes en civil se présentant comme des agents des renseignements burkinabés avant d'être emmenés vers une destination inconnue.
L'invité.
Je le disais en début de ce journal, l'échéance fiscale pour la souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations est fixée au 31 mars prochain. La Direction générale des impôts rappelle que cette obligation concerne aussi bien les employés du secteur public que privé. Pour en discuter, nous recevons M. Pierre Kabeya, chargé d'études à la division communication et documentation de la Direction générale des impôts, qui répond aux questions de Jocelyne Moussa Oponde, suivez.
Monsieur Pierre Kabeya, bonjour.
Bonjour madame.
Il y a un peu plus d'un mois, on évoquait déjà cette souscription. Quelle différence avec celle-ci?
L'échéance du 15 février passé concernait les employeurs, tous les employeurs en fait. Tandis que l'échéance du 31 mars 2025 concerne les employés des secteurs publics et privés.
Mais ce sont pratiquement les mêmes informations qui sont partagées ou déclarées par l'employeur et l'employé. Pourquoi faut-il le faire deux fois?
Oui, nous le faisons juste pour la cohérence en fait. L'employé est aussi obligé de déclarer. Ça va nous permettre en fait de voir la cohérence entre ce que l'employeur a déclaré et ce que l'employé a déclaré. Et cela, c'est aussi en prévision de l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui va entrer en vigueur au mois de janvier 2026.
Cette déclaration intervient au 30 mars, contrairement à celle du mois de février qui est intervenue le 15.
Exactement. Conformément à la disposition légale, l'échéance des souscriptions de la déclaration récapitulative annuelle est prévue au plus tard le 30 mars de chaque année. Mais pour cette année 2025, étant donné que le 30 mars tombe un dimanche, un jour non ouvrable, la date de l'échéance a été reportée en fait au lundi 31 mars.
Est-ce que vous pensez que tous les employés sont sensibilisés à cette déclaration, surtout celles qui sont dans les petites entreprises? Qu'adviendra-t-il à ces employés qui n'auront pas souscrit à cette déclaration annuelle?
La DGI est en campagne en tout cas sur ce point-là, puisque nous avons même au niveau de des télévisions et des radios, nous sommes en train de faire une campagne à cet effet. Il y a aussi des matinées fiscales qui sont organisées à travers la ville avec les organisations fêtières comme la FEC, Copemeco, Chambre de commerce, l'ONEC et d'autres organisations. Et puis, il ne faut pas aussi oublier que la loi, c'est la loi. Donc, nul n'est censé ignorer la loi.
Y a-t-il des sanctions prévues pour les employés qui n'auront pas souscrit à cette déclaration?
Bien sûr, madame. Le non-respect de cette obligation fiscale entraîne une amende de 250 000 francs congolais dans le chef de l'employé défaillant, tel que stipule l'article 94 de la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales.
Et où doit-on souscrire cette déclaration? Où l'employé est censé aller faire cette déclaration? Et quelle procédure faut-il suivre?
Toute personne concernée par cette obligation doit retirer et souscrire son formulaire de déclaration auprès du centre d'impôt synthétique du lieu de sa résidence. Donc tu peux travailler dans la commune de La Gombe, mais si tu restes à Ngiringiri, tu dois faire ta déclaration là où tu restes à Ngiringiri. Donc tu peux habiter Limete et que tu travailles dans la commune de La Gombe et tu dois faire ta déclaration là où tu restes, sur ton lieu de résidence en fait. Et puis il y a deux possibilités de déclarer. Tu n'es pas obligé d'aller nécessairement au niveau du centre des impôts pour déclarer, mais il y a une autre possibilité. On peut télécharger à partir du site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd et là, vous entrez sur notre site, vous complétez votre déclaration et vous l'envoyez.
Un mot peut-être à ajouter, Monsieur Kabeya?
Je voulais juste ajouter encore que cette déclaration doit être souscrite, comme je venais de dire, soit sur support papier, soit par voie électronique à travers notre plateforme e-employé. Et en cas de paiement, comme je vous l'ai dit, là je l'insiste, qu'en cas de non-respect de cette obligation, et cela entraîne une amende de 250 000 francs congolais dans les chefs de celui qui ne les fera pas.
Monsieur Pierre Kabeya, merci.
Merci madame pour cette opportunité et j'espère que tout citoyen, tout celui qui s'est dit vraiment citoyen, doit en tout cas se conformer à cette disposition fiscale.
Voilà, ainsi s'achève ce journal. Au nom de Pélé Kipela Mondo, de Willy Landry Betou, je vous dis merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.